Je vais maintenant vous montrer quelque chose. Voici des immeubles de plusieurs dizaines d'étages. Ces immeubles se trouvent au Japon. Et en fait, voilà ce qui était filmé depuis un immeuble voisin au cours d'un tremblement de terre. Vous voyez des immeubles fortement secoués, ébranlés. Vous voyez à quel point ils bougent. Je ne sais pas quel effet ça fait d'être là-dedans. Mais en tout cas, j'imagine que vous espérez très fortement que le bureau d'études, l'architecte et les constructeurs ont bien pensé tout ce qu'ils ont fait. Parce que voilà des immeubles qui sont secoués et qui vont sortir indemnes de ce tremblement de terre. Ils vont rester debout. Alors, on pense parfois que c'est en raison de leur solidité qu'ils résistent. Et c'est vrai, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais ce n'est pas seulement parce qu'ils sont solides qu'ils résistent. Parce que si jamais ils étaient seulement résistants et solides, ils finiraient par vaciller et par chuter. Comme c'est arrivé à ces immeubles qui ont été construits avec d'autres technologies. Extrêmement résistants, ils ne se sont pas brisés en tombant. N'empêche, ils sont tombés. Ce qui fait que des immeubles ne s'effondrent pas, même en cas des plus violents séismes qui puissent exister sur cette terre, ce sont leurs fondations. Des fondations extrêmement solides, mais en même temps, des fondations qui ont un certain nombre de particularités. Et entre autres, elles sont capables déjà d'absorber les chocs dus au mouvement, au tremblement de terre, afin que les immeubles ne se brisent pas. Ce sont des fondations qui sont également capables d'accompagner l'immeuble dans ses mouvements, afin qu'il ne se détache pas, qu'il ne se déplace pas tellement qu'il sorte de ses fondations. Et aussi, ce sont des fondations qui ont la particularité de pouvoir restituer, absorber une partie de l'énergie et la restituer afin de remettre l'immeuble dans son axe et afin qu'il ne tombe pas. Eh bien, ce que ces fondations parasismiques font pour ces immeubles, c'est un peu la même chose que fait la parole de Dieu pour nous. La parole de Dieu nous permet de ne pas nous effondrer lorsque nous sommes ébranlés. Elle nous permet de rester attachés à Dieu lorsque pourtant nous sommes tiraillés de toutes parts. Elle nous permet de rester debout lorsque nous sommes tentés et que nous risquons de chuter. La parole de Dieu nous permet de vivre en communion avec Dieu. Elle nous permet de grandir à la ressemblance de Jésus à condition que nous prenions appui sur elle. C'est pour cela qu'en tant qu'Église, voilà. En tant qu'Église, nous devons être fondés sur la parole de Dieu. Pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, EEBV, c'est Église évangélique baptiste de Villefranche. Ça, c'est vrai pour l'Église, mais l'Église, c'est qui? L'Église n'est rien s'il n'y a pas des personnes. Et c'est surtout vrai donc pour chacun de nous. Chacun de nous, dans nos vies personnelles, nous devons être fondés sur la parole de Dieu. Si nous voulons vivre en communion avec Dieu, si nous voulons grandir à la ressemblance de Christ, si nous voulons rester debout sans tomber, nous devons être fondés sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai donné comme titre à ma prédication de ce matin, « Soyons fondés sur la parole de Dieu ». Je vais vous raconter une anecdote. Il y a déjà maintenant un certain temps, j'étais membre d'une église, et un dimanche matin, sans être averti en quoi que ce soit, nous avons vu arriver de nouvelles personnes. Formidable! Ces nouvelles personnes représentaient environ la moitié de notre assemblée. Donc, je ne sais pas si vous voyez, si on est ici 60 au culte, 60 adultes, et bien d'un seul coup on passe à plus de 100. Et en fait, ces gens venaient d'une sorte d'église qui avait cessé d'exister. Je dis sorte d'église parce que, officiellement, ce groupe était chrétien, Mais en réalité, ils croyaient en toutes sortes de choses étrangères et même contraires à la parole de Dieu. Et en fait, ces personnes avaient été enseignées et trompées par quelqu'un qu'elles considéraient comme étant un prophète, jusqu'à ce qu'elles comprennent que cet homme les avait détournées de Dieu. Et le groupe a décidé ainsi de cesser d'exister et de rejoindre d'autres communautés. Et voilà comment d'un seul coup, un groupe comme celui-là est arrivé dans notre église. Ces personnes arrivaient bien sûr parmi nous blessées, mais ces personnes arrivaient aussi au milieu de nous, non pas les poches vides, comme le personnage qu'on a vu, mais les poches, la tête et la vie remplies de toutes sortes de croyances et de pratiques. Leur tête remplie de toutes sortes de mensonges sur ce qu'ils étaient, sur Dieu. Non, merci Antoine. En fait, tous les ingrédients étaient réunis pour fragiliser l'Église, pour créer des divisions et la faire exploser. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé parce que l'Église était solidement ancrée sur la parole de Dieu. Alors, la moitié de ces nouvelles personnes, très rapidement, sont parties parce qu'elles ne cherchaient pas, en fait. Elles ne trouvaient pas parmi nous ce qu'elles cherchaient et elles sont allées rejoindre un groupe qui avait le même enseignement que celui d'où elles venaient. Mais l'autre, la moitié d'entre eux qui est restée, avait cette soif de marcher avec Dieu. Et ensemble, eux et nous, nous avons pu grandir en maturité et en nombre parce que nous étions fondés sur la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous avons le désir de voir de nouvelles personnes se joindre à nous. Ce serait formidable si du jour au lendemain, on avait d'un seul coup, 30 personnes de plus. Mais nous devons être conscients que personne n'arrive ici la tête vide et les mains vides, et que chacun vient avec ses propres croyances, qu'on en soit conscient ou non. Et si nous voulons être en mesure d'accueillir ces personnes, mais aussi de les faire grandir et de grandir avec elles, il nous faudra absolument veiller à demeurer fondés sur la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à en emprunter si vous n'en avez pas. Dans la deuxième lettre de Timothée, au chapitre 3, si vous avez cette édition, c'est à la page 784. Et je lirai les deux premiers versets, enfin les versets pardon, 16 et 17. De Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Tout d'abord, toute écriture est inspirée de Dieu. Nous ne pouvons pas considérer la Bible comme étant un livre ordinaire parce que la Bible nous vient de Dieu. La Bible ne fait pas que de parler de Dieu. La Bible nous vient de Dieu. Elle nous a été donnée par Dieu. D'où mon premier point, la Bible est un cadeau que Dieu nous offre. Par rapport à tout ce que Dieu fait, nous devons être conscients d'une chose, Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il ne manque rien à Dieu, il n'a aucun besoin. Ce n'est donc pas pour lui-même qu'il a fait en sorte que la Bible existe, mais c'est pour nous. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a fait ce merveilleux cadeau. La Bible est le message que Dieu nous adresse, c'est pourquoi il est écrit « Toute l'écriture est inspiré de Dieu. » L'Écriture nous vient de Dieu et c'est par ce moyen que Dieu veut nous parler. D'ailleurs, l'Écriture dit d'elle-même qu'elle est parole de Dieu. Par la Bible, le Dieu créateur, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, mais aussi le Dieu compatissant, le Dieu de grâce, nous accorde l'immense et incroyable privilège de s'adresser à nous. Vous vous rendez compte? Dieu aurait très bien pu rester silencieux. Débrouillez-vous. Dieu aurait pu, justement, nous dire, ben voilà, moi, je vais me laisser découvrir. Débrouillez-vous tout seul. Mais ce n'est pas le cas. Dieu qui nous aime, nous a fait le cadeau de nous adresser à lui, à nous, au travers de sa parole. Et là, on peut se dire, formidable, nous avons un Dieu qui nous parle. Mais là, attention. Parce que Dieu qui nous connaît sait qu'en raison de notre péché, nous avons une fâcheuse tendance qui est de celle de trouver dans sa parole uniquement ce qui nous arrange. Et de laisser de côté, bien sûr, donc, ce qui nous dérange. Mais Dieu ne veut pas simplement que nous entendions ce que nous avons envie d'entendre. Dieu veut vraiment nous parler. Parce que Dieu a vraiment des choses à nous dire. Aussi, Dieu nous précise comment nous devons considérer sa parole. Et il nous dit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture. Et pas seulement une partie, pas seulement ce qui nous arrange, mais toute l'Écriture, c'est-à-dire aussi les passages qui nous dérangent. Et c'est grâce à l'ensemble des textes bibliques que nous pourrons vraiment savoir ce que Dieu veut nous dire et que nous ne tombons pas dans l'erreur. Et vous savez, parfois, il y a des gens qui disent « Mais moi, je suis fondé sur la parole de Dieu. » Très bien. Mais est-ce qu'ils sont fondés sur toute la parole de Dieu? Parce que si on n'est pas fondé sur toute la parole de Dieu, on n'est pas fondé sur la parole de Dieu du tout. Parce qu'il y a tellement de choses écrites dans la Bible, aussi bien des choses qui reflètent la volonté de Dieu, que de choses qui sont l'inverse de ce que Dieu attend. Que si jamais on prend simplement 2-3 passages et qu'on se fonde dessus, on peut justifier absolument tout et n'importe quoi. Nous ne devons pas simplement être fondés sur la parole de Dieu. Nous devons être fondés sur toute la parole de Dieu. La parole de Dieu est le reflet de ce que Dieu veut nous dire, parce que Dieu ne se contredit pas, Dieu ne ment pas. Aussi, sa parole, qui était inspirée par lui, ne se contredit pas. La Bible s'éclaire par elle-même. Dieu nous fait le cadeau de nous parler. Aussi, si nous voulons que Dieu nous parle vraiment, il nous faut recevoir la parole de Dieu dans sa totalité. La Bible n'est pas seulement un beau cadeau qui vient de Dieu. Il y a des belles Bibles, hein, de magnifiques éditions. Il y a des textes bibliques qui sont très beaux. La Bible n'est pas seulement un beau cadeau qui vient de Dieu, c'est aussi un cadeau utile. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et quoi ? Et utile, nous dit la Bible. Alors peut-être que parfois on pense qu'il n'est pas utile de lire notre Bible. Eh bien, si c'est ce que l'on pense, nous nous trompons. La Bible nous a été donnée par Dieu parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Nous avons besoin de lire la Bible parce que nous avons besoin de savoir ce que Dieu veut nous dire. Alors je dois vous partager un certain sujet d'inquiétude pour moi. Dimanche après dimanche, depuis ma place, j'invite chacun à ouvrir la Bible. Il est possible que quelqu'un n'ait pas de Bible avec lui, alors je rappelle qu'il y a des Bibles là-bas au fond, que l'on peut emprunter. Et malgré cela, environ la moitié d'entre nous ne prend pas la peine d'ouvrir sa Bible. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être que c'est dû à une formidable capacité de mémorisation. La Bible est déjà connue dans son ensemble, et on n'a plus besoin de l'ouvrir. Moi, je pense que ça doit sûrement exister. Ce n'est pas ce que je vis, en tout cas, moi. Ou bien peut-être que le texte qui est lu, parce que le texte est lu depuis ici, peut-être que cette capacité de mémorisation permet de se souvenir de ce texte et de l'avoir en tête durant tout le long de la prédication. Je vous donne une petite confidence. Hein. Je peux arriver ici en ayant oublié le texte sur lequel je vais prêcher. Et pourtant, le texte sur lequel j'ai passé plusieurs heures. J'ai une incroyable capacité d'oubli. Et moi qui n'ai pas une bonne mémoire et qui suis là, je me demande si le fait de ne pas lire, ne pas d'ouvrir de Bible, ne reflète pas en fait quelque chose de plus inquiétant, à savoir que le texte biblique n'est pas considéré comme quelque chose d'utile dans notre marche avec Dieu. Venir à l'église est suffisant, parler à Dieu est suffisant, chanter est suffisant. Mais ouvrir la Bible n'est pas utile, ou en tout cas pas indispensable. Je pense que tous nous savons qu'il est utile de lire la Bible, ça c'est ce que nous savons en théorie. Mais quelle est notre pratique? Lorsque nous considérons que quelque chose est utile, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je m'en sers. Nous avons à la maison un four, un micro-ondes, hein, et puis vu notre manière de vivre et notre famille, il nous est fort utile. Et moi, ce n'est pas parce que notre micro-ondes est beau que je m'en sers. Ce n'est pas non plus parce que je trouve cela agréable de me servir de ce micro-ondes. Et ce n'est pas non plus parce que je suis obligé de m'en servir que je l'utilise. Mais c'est parce qu'il est utile que je m'en sers. Eh bien, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Dieu nous a donné sa parole parce qu'il sait que la Bible nous est utile. Ce n'est pas pour lui qu'il nous a donné sa parole, c'est pour nous. Et la Bible nous est utile aux trois domaines de notre vie qui nous permettront de plus en plus de ressembler à Jésus. D'abord, ce que nous pensons, parce que nous devons chercher à avoir les pensées de Jésus, à penser comme lui. Ce que nous sommes, nous devons chercher à ce que se développe en nous le caractère de Jésus, lui ressembler. Également, la parole de Dieu nous est utile pour ce que nous faisons, parce que nous devons chercher à agir comme Jésus le ferait à notre place. Alors tout d'abord, ce que nous pensons, c'est notre prochain point. La Bible est utile pour connaître la vérité et mettre en nous les pensées de Jésus. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Alors au cours de notre vie, nous nous posons toutes sortes de questions fondamentales. Pourquoi suis-je sur terre? Quel est le sens de la vie? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce qu'en tant qu'individu, j'ai de la valeur? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qui sont les autres par rapport à moi? Et comment je dois me comporter envers eux? Et nous avons besoin d'avoir des réponses à ces questions, et parfois on n'est même pas conscient qu'on se les pose. Mais tous nous posons ce genre de questions. Nous avons besoin d'avoir des réponses, parce que c'est cela qui va orienter notre vie, nos pensées, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et vu le monde dans lequel nous vivons, nous sommes entourés par de très nombreuses sources d'informations qui vont nous apporter un certain nombre de réponses à nos questions. Je pense que bien plus, nous sommes même bombardés de toutes sortes d'informations. Et puisque de toute manière, il nous faudra, pour vivre, pour savoir sur quoi nous appuyer, avoir des réponses à ces questions, posons-nous la question de savoir quelles sont les sources qui chaque jour nous instruisent et finissent par nous modeler. Quelle est la source qui modèle vos pensées, qui va orienter ce que vous êtes et vos actes? Alors, est-ce la télévision? Peut-être les revues, les journaux, la radio? Et bien sûr, quelle est actuellement la source suprême de toute information, si vous voulez connaître quelque chose, vers quoi vous tournez-vous? Internet et ses extraordinaires moteurs de recherche qu'on pense parfois neutres, mais qui en fait sont le reflet d'énormément d'enjeux financiers. Toutes ces sources d'informations nous instruisent, nous façonnent et finissent par orienter nos vies. Et je pense qu'aucun de nous ne peut dire qu'il échappe à ces sources d'informations. Alors, nous entendons chaque jour toutes sortes de choses, des tas de choses, par exemple, sur Dieu, son existence, sur ce qu'il est, sur ce qu'il veut. Nous entendons également des tas de choses sur notre identité, sur la sexualité, sur la famille, sur le mariage, sur le type de relation que nous devrions avoir les uns avec les autres. Nous entendons des tas de choses sur ce qui a de la valeur, sur ce qui est important, ce qui pourrait faire notre bonheur, ce qu'il faut rechercher pour être heureux. Et nous entendons également toutes sortes de choses sur la manière de régler nos conflits, nos différends. Nous entendons des tas de choses, mais le problème, c'est que bien des informations qui nous parviennent sont fausses et sont mauvaises. Eh bien, Dieu qui nous aime et qui veut prendre soin de nous, Dieu aimerait nous aider à balayer tout cela. Et Dieu voudrait que nous bénéficions d'informations justes et bonnes. Aussi Dieu nous a donné la Bible, la parole qui vient de Dieu. Tout ce que Dieu veut nous dire, que nous avons besoin de savoir, se trouve dans la parole de Dieu. Pas simplement ce que nous avons besoin de savoir pour vivre éternellement. J'ai découvert en lisant la Bible que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. Mais également tout ce que nous avons besoin de savoir pour vivre aujourd'hui dans ce monde qui est le nôtre. Et Dieu ne veut pas simplement nous parler parce que nous sommes ignorants et nous apporter des informations nouvelles. Mais Dieu veut également balayer chez nous les mensonges auxquels nous croyons. Des mensonges qui sont le reflet du péché, le monde dans lequel nous vivons, et qui nous empêchent d'être et de vivre ce pourquoi nous avons été créés par Dieu et ce pourquoi Jésus nous a rendu la vie, à savoir des hommes et des femmes libérés de la peur et du péché, des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, des hommes et des femmes qui grandissent à l'image de Jésus et qui peuvent ensuite être en mesure de prendre soin des autres. À partir de ce qui est vrai, de ce qui est juste, qui se trouve dans la parole de Dieu, une fois que nous avons pris connaissance de cela, le Saint-Esprit va pouvoir agir puissamment en nous afin de nous transformer intérieurement. C'est notre prochain point. La Bible est utile pour développer en nous le caractère de Jésus. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, les mots employés ici ont le sens de remettre en état ce qui a été déformé dans notre personnalité, de redresser ce qui ne va pas dans notre caractère et de réorienter notre manière de vivre dans la bonne direction. On peut dire que d'une manière, enfin imagée hein, bien sûr, qu'après avoir touché notre tête, Dieu veut toucher notre cœur et nous donner ainsi une vie nouvelle. Dieu veut restaurer en nous son image. Dieu ne veut pas simplement que nous ayons la tête remplie, Dieu veut que nous ayons un cœur nouveau. Dieu veut nous guérir de nos blessures et tous, qui que nous soyons, nous avons des blessures qui façonnent notre regard sur Dieu, notre façon de vivre, nos relations les uns avec les autres. Dieu veut également nous délivrer de nos peurs. Et c'est à partir de sa parole que Dieu agira. D'abord, Dieu nous dit ce que nous devons savoir par sa parole. Et une fois que nous savons cela, par l'action du Saint-Esprit, Dieu fait en sorte que sa parole prenne vie en nous et nous libère de ce qui nous empêchait de vivre. Parce que toujours, de façon imagée, hein, il y a des choses que nous savons dans notre tête, mais qui ont encore besoin de descendre dans notre cœur. Par exemple, je peux savoir que Dieu m'aime et que par la foi en Jésus, il m'a sauvé par grâce. qui ne se souvient plus de mon péché. Ça, je le sais, c'est déjà bien, parce que ça me permet d'obtenir la vie éternelle. Mais il existe encore un niveau plus profond de connaissance, celle du cœur. C'est à ce niveau-là que les vies sont transformées. Ce n'est pas la même chose de savoir que Dieu nous aime que de vivre avec l'amour de Dieu dans nos cœurs. Mais pour que cela soit possible, il faut que nos blessures intérieures soient guéries, que nos peurs soient apaisées, que nos souffrances soient soulagées. Et ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait à partir de la parole de Dieu. Alors des fois, c'est par petites touches successives. Moi, dans ma propre vie, je suis surpris de voir à quel point le Seigneur prend son temps dans certains domaines de ma vie pour me faire cheminer. Mais ce qui est rassurant, c'est que simplement, c'est lorsqu'on a cheminé qu'on se rend compte du chemin parcouru. Des fois, le Seigneur fait les choses progressivement, par petites touches successives, parce qu'il y a parfois des changements qui prennent du temps. Et d'autres fois, Dieu, par son esprit, peut faire que dans nos vies, il y ait de grands bouleversements intérieurs. Une page radicale est tournée. Mais au travers de tout cela, et dans tous les domaines de notre vie, Dieu veut restaurer en nous son image qui a été ternie, abîmée, déformée par le péché. Et c'est alors que se développe en nous le caractère de Jésus qui va faire de nous un homme nouveau, une femme nouvelle. La Bible est utile pour développer en nous le caractère de Jésus. Et bien sûr, la Bible est également utile pour nous guider dans nos actions. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et la conséquence de tout cela ? Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est bien d'avoir un cœur zélé pour Dieu, de vouloir faire les choses pour Dieu. Encore faut-il les faire à la manière de Dieu et aussi savoir les faire de la même manière que Jésus le ferait à notre place. C'est notre dernier point. La Bible est utile pour nous amener à agir comme Jésus l'aurait fait à notre place. Dieu nous parle et nous dit comment nous devons vivre et agir. Alors, la parole de Dieu ne nous dit pas tout dans les détails. Si vous voulez savoir quel modèle de voiture changer, ce n'est pas sûr que vous le trouviez dans votre Bible. Mais en revanche, la Bible nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir dans les grandes lignes qui orientent notre vie et qui nous permettent par la suite de prendre les bonnes décisions. La parole de Dieu nous est par exemple utile pour savoir comment gérer notre argent. Elle nous éclaire sur la manière de vivre notre sexualité. La parole de Dieu est également utile pour savoir comment nous devons nous comporter les uns envers les autres. Et la parole de Dieu est utile pour guider, qui donc ? Tous ceux qui cherchent à savoir ce que Dieu attend d'eux. Dieu parle à ceux qui l'écoutent. Et ce n'est pas sûr que, même si nous avons déjà lu toute la Bible, Dieu nous parle au travers d'un texte que nous avons lu il y a peut-être plusieurs années. Moi, je suis surpris et je suis très encouragé dans ma lecture personnelle de la Bible de voir que Dieu peut me parler avec des textes que j'ai déjà lus parfois des dizaines de fois. Dieu parle à ceux qui l'écoutent. Alors parfois, nous prions afin que Dieu nous éclaire et qu'il nous parle. Et parfois, nous n'entendons rien. Nous avons l'impression que Dieu reste silencieux. Et là, nous devons nous poser une question. Est-ce que c'est Dieu qui reste silencieux ? Ou bien, est-ce que c'est nous qui négligeons de prendre connaissance de sa parole ? Est-ce Dieu qui reste silencieux ? Ou bien, est-ce que c'est nous qui voudrions entendre autre chose que ce que nous trouvons dans sa parole? Dieu ne ment pas, Dieu ne se contredit pas, et Dieu ne nous dira rien qui irait à l'encontre de sa parole. C'est donc totalement inutile de prier Dieu pour qu'il nous dise autre chose ou l'inverse de ce qui se trouve dans sa parole. La parole de Dieu est le merveilleux cadeau que Dieu nous a fait afin que nous soyons formés et équipés pour toute œuvre bonne. Est-ce que nous voulons mieux connaître Dieu? Est-ce que nous voulons savoir ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste? Si nous pouvons répondre oui à cette question, alors soyons fondés sur la parole de Dieu. Est-ce que des fois on n'en a pas marre de mener la vie qu'on mène? Je ne parle pas au niveau de ce qu'on fait, mais de ce que l'on est. Est-ce que des fois on n'aimerait pas être différent? Être capable de vivre non pas simplement ce que nous faisons, mais ce que nous aimerions vivre vraiment. Est-ce que nous n'aimerions pas mener des vies nouvelles, des vies d'hommes et de femmes libres qui grandissent à la ressemblance de Jésus? Eh bien, si nous pouvons répondre oui à cette question, soyons fondés sur la parole de Dieu. Est-ce que nous voulons accomplir ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous avons ce désir de faire plaisir au Seigneur et de faire ce qu'il attend de nous? Si oui, soyons fondés sur la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. La Bible est le beau et utile cadeau que Dieu nous a fait. Et il appartient maintenant à chacun de nous de savoir ce qu'il va faire par rapport à cette parole de Dieu, à ce merveilleux cadeau que Dieu lui a fait. Parce qu'un cadeau, on peut l'accepter ou on peut le refuser. Un cadeau que l'on a fait et que l'on a accepté, on peut s'en servir, ou bien, comme une Bible par exemple, la mettre à un bel endroit chez nous. Des endroits où quand les gens arrivent, « Ah, vous avez une Bible ? Oui, j'ai une Bible. Vous êtes chrétien ? Oui, je suis chrétien. » Si les gens nous posent la question, « Qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui dans la parole de Dieu ?» Peut-être que parmi nous, un certain nombre de gens enlèveraient la Bible aux yeux de leurs visiteurs, parce qu'ils seraient mal à l'aise par rapport à cette question. Pour nous, la question n'est pas de savoir s'il faut, oui ou non, lire la Bible, mais plutôt de savoir à quel moment nous allons le faire. J'aimerais maintenant vous laisser quelques instants afin que vous puissiez vous placer devant Dieu et lui demander à lui comment il aimerait que vous lisiez sa parole. À quel moment, combien de temps, de quelle manière, peu importe. Je vous invite maintenant à vous placer devant le Seigneur.